Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Jinyun Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin, produit par Jinyun Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat.
Pour ce nouvel épisode du Jinyun Podcast, j'ai le plaisir de discuter avec Jennifer, qui est la fondatrice de Respire Yoga. Bonjour Jennifer, bienvenue sur le Jinyun Podcast.
Bonjour, merci beaucoup.
Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter et puis nous raconter ton parcours jusqu'à ce moment où le yoga a pris une place importante dans ta vie. Et la question qui va avec, je voulais te demander en fait ce que le yoga t'avait amené, que peut-être tu n'avais pas trouvé auprès d'autres pratiques ou d'autres thérapies.
Oui, alors avec plaisir. En fait, tout a commencé durant mon adolescence. Je suis tombée dans les troubles alimentaires et j'ai souffert pendant 17 ans d'anorexie, de boulimie. Et c'est vrai que durant ce parcours, j'ai testé énormément de thérapies différentes. Je pense que j'avais toujours au fond de moi envie de m'en sortir, envie de guérir. J'ai toujours été curieuse, très intéressée par la psychologie aussi. Donc j'avais besoin de comprendre en fait et j'avais besoin de me comprendre. Parce que je pense que une des clés était le fait que je ne savais pas du tout qui j'étais. J'avais énormément de mal à m'accepter en fait, à accepter le côté de moi que je voyais comme fragile à l'époque, mais qui était plutôt hypersensible en fait, très très émotive. Et durant ce parcours, donc j'ai un peu tâtonné à gauche, à droite. J'ai découvert des outils déjà super. J'avais découvert le yoga en fait autour de 18 ans, grâce à ma maman qui m'avait emmenée à un de ses cours, et ça me faisait énormément de bien. Mais par contre, ça s'arrêtait à l'heure de cours hebdomadaire. Je n'arrivais pas à appliquer en fait, cet état en dehors de ce moment. En fait, Après, avec les études, j'ai gentiment laissé de côté le yoga et j'ai mis plusieurs années à y revenir. En fait. Ça a commencé tout d'abord par la pleine conscience. J'ai eu la chance de rencontrer en fait, une psychologue qui était vraiment super et qui m'a gentiment reconduit vers la pleine conscience, cette reconnexion à moi. Et après, j'ai eu besoin en fait, d'allier aussi les mouvements. C'est vrai que comme j'étais complètement en désharmonie avec mon corps, comme j'étais déconnectée de ce corps, le fait de pouvoir être présente, de me sentir bouger, en fait, de bouger en conscience, m'a vraiment permis de retrouver de nouvelles sensations, en fait, de me retrouver, je pense.
D'accord. Très bien. Et comment est-ce que tu en es venue alors à créer toi-même un studio yoga? Je pense qu'on dit studio, le studio Respire Yoga.
Oui, alors ce n'est pas tout à fait un studio, mais j'expliquerai peut-être après. Donc après cette redécouverte du yoga, j'ai envie de dire, j'ai vraiment redécouvert de mon côté. Parce que c'est vrai que comme j'avais quelques bases, j'ai exploré par moi-même, je me suis acheté un tapis. Donc je faisais à la maison, je faisais tous les jours, je pratiquais méditation, des postures aussi. Vraiment ces moments de pleine conscience. Et au fil du temps, je sentais que j'avais envie en fait, de partager tous ces outils avec d'autres personnes. Et puis c'est vrai que moi, je suis enseignante de base, donc je pense que le partage est quelque chose que j'apprécie, que j'aime. Et je sentais aussi de plus en plus que dans mon métier, ce que j'étais en train de transmettre n'était pas forcément des valeurs qui me correspondaient. En fait, j'adorais ce rapport avec les élèves, j'adorais le lien que je pouvais créer avec eux. Mais les branches que j'enseignais en fait me correspondaient de moins en moins. Et un jour, complètement par hasard, en discutant avec un collègue, en expliquant un petit peu justement mes projets, mes envies, il m'a dit « Mais pourquoi en fait tu ferais pas une formation pour être professeur de yoga ?» Et dans ma tête, je me disais « Pour moi, c'était un rêve, je pensais pas du tout que c'était possible. » Je disais « Oui, ben voilà, c'était un petit peu complètement utopique. » Et l'idée est restée, il y a vraiment une petite graine qui s'est plantée à ce moment-là. Et plus les jours passaient, plus j'y pensais, c'était vraiment très, très présent. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas, j'y perds rien de faire une formation. Donc, j'ai un petit peu fait des recherches, regardé comment est-ce que je pouvais me former pour avoir les bases. Et puis, c'est là que j'ai démarré ma première formation en fait, de professeur de yoga. Je ne me sentais pas assez en confiance. Je pense que j'ai toujours eu un gros problème de confiance en moi. Et le fait d'enseigner quelque chose qui m'apportait beaucoup, mais... De peut-être pas me sentir légitime. C'est toujours ce problème de légitimité que j'avais à l'époque, en fait. Je recherchais un petit peu des informations sur Internet par rapport au yoga dans ma région et je suis tombée sur une salle qui était allouée, dont les photos m'ont tout de suite tapé à l'œil. Et je sentais, en fait, que cette salle, je me suis dit, il faut que je contacte, il faut que je regarde. Et j'ai contacté cette dame avec qui je me suis super bien entendue. Et c'est là que ça a démarré, en fait. J'ai décidé de louer déjà une première heure dans la semaine, de sous-louer cette salle pour donner mes premiers cours. Et étonnamment, ça c'est avec les connaissances que j'avais autour de moi, les gens sont assez vite venus pour tester. Puis après, ils ont continué, donc c'était chouette. J'ai également donné des cours à mes collègues, comme j'étais encore enseignante à l'époque. Donc, on a commencé à se retrouver dans la bibliothèque de l'établissement une fois par semaine pour un petit cours de yoga, ce qui faisait énormément de bien justement avec tout le stress qu'on trouve actuellement au travail. Et voilà un petit peu comment ça a démarré.
Génial. Et c'est quoi les valeurs que tu souhaites transmettre avec Respire Yoga?
Je pense que je suis quelqu'un de bienveillante, de très douce, à l'écoute. Et c'est vraiment ce type de yoga que j'ai envie de transmettre. C'est vrai qu'actuellement, on voit beaucoup des yogas dynamiques, plutôt dans le physique. Enfin, alors, on est de toute manière dans le physique, mais ce que je veux dire, plus proche du fitness. Et moi, j'ai vraiment besoin en fait, que les gens apprennent à s'écouter, apprennent à respecter leur corps, peu importe ce qui se passe sur les tapis à côté, qu'ils puissent définir leurs propres limites puis les repousser vraiment tout gentiment. Avancer sur leur chemin qui est le leur, sans forcément vouloir faire comme tout le monde. En fait, j'essaye de conduire mes élèves à trouver leur propre voie.
D'accord. Et je lisais justement sur ton site que quand tu présentes Respire Yoga, tu évoques notamment le terme d'approche holistique. Et j'étais curieuse, je voulais que tu nous expliques un petit peu ce que tu entendais par là et ce que ça impliquait pour Respire Yoga.
Alors ça, c'est vrai que en plus des cours de yoga, je propose aussi des accompagnements thérapeutiques. Donc, je suis formée en yoga-thérapie. Je suis en train de changer un petit peu le concept. Puis c'est vrai que je me rends compte que j'amène aussi beaucoup d'autres outils que ce que j'ai pu acquérir durant la formation, étant donné que j'ai fait aussi d'autres formations, que je suis passionnée de lecture, donc je pense que je me forme tous les jours. Et du coup, j'essaye de remodifier un peu, puis je pense que je vais proposer vraiment une approche qui s'appellera Respire Thérapie, un accompagnement qui sera entièrement, en fait, qui viendra de moi. Et l'approche holistique, c'est plutôt dans ce sens-là que je la vois, parce que quand je prends les personnes, donc on est individuel pour des suivis thérapeutiques, je travaille sur tous les plans. C'est ce qui m'a beaucoup manqué, en fait, dans ma guérison, dans ma période de maladie. C'est que j'ai souvent eu l'impression, en fait, d'être un petit peu ballottée à gauche, à droite. Donc, soit on était pour le corps quand il y avait des soucis vraiment physiques, parce que c'est une maladie quand même qui apporte aussi énormément de désagréments au niveau du corps. J'avais les rendez-vous chez les psys, j'étais tout le temps... On déconnecte tout le temps, en fait, dans la manière de soigner également le corps, l'esprit, tout ce qui est émotion, tout ce qui est cœur aussi. Et pour moi, l'approche holistique, c'est vraiment essayer de travailler sur tous les plans en même temps, sans devoir aller à gauche, à droite, en fait, de proposer dans un espace un soin complet, en fait, un soin global. Parce que l'être humain n'est pas juste un corps, n'est pas juste un cœur, n'est pas juste une tête, mais c'est vraiment un tout. Je pense que la plupart des gens sont déjà déconnectés. On vit dans une société qui nous pousse à être beaucoup dans la tête, à être beaucoup dans la réflexion. Et le fait d'essayer de guérir, mais en traitant les problèmes séparément, je pense que ça n'aide pas.
Et quand on parle de yoga, et tu l'évoquais juste avant, on parle souvent de la notion de pleine conscience et par extension de méditation, de connexion à soi-même. Et je voulais un petit peu creuser dans ce sens-là pour découvrir quels étaient les bienfaits d'une telle pratique. Alors au sens large peut-être d'abord, et puis plus particulièrement pour les entrepreneurs.
Alors, je trouve ça déjà chouette que tu le relèves parce que c'est vrai que quand on parle de yoga, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent des postures. Mais déjà, rien que de voir un petit peu plus loin, de voir le côté méditation, pleine conscience, c'est déjà de réussir à prendre du recul puis en fait à voir toute l'étendue du yoga. Parce qu'effectivement, je pense que la pleine conscience est une étape très, très importante dans ce qu'on peut appeler une transformation parce que le yoga transforme. Et alors... Il y a l'aspect méditation, puis souvent méditation, on pense qu'il faut être assis, rester des heures, les yeux fermés à attendre un petit peu, à se retrouver nez à nez avec nos pensées qui tournent, qui peuvent nous perturber, qui peuvent nous chambouler. Alors oui, ça fait partie, mais il n'y a pas que ça en fait. Je pense que juste être capable déjà de temps en temps, que ce soit en fermant les yeux, en gardant les yeux ouverts, de pouvoir se recentrer. Et c'est vrai que c'est de là que vient aussi le nom Respire Yoga, parce que pour moi, je pense que la respiration est clairement la clé. Juste revenir au souffle, se sentir respirer, en fait, ce souffle qui est la vie, qui nous permet de nous maintenir en vie, permet de revenir au moment présent, de revenir aux sensations du corps. Et du coup, on est déjà dans la pleine conscience et dans la méditation, enfin, la première étape en tout cas de la méditation.
Et est-ce que tu vois des bénéfices particuliers pour les entrepreneurs, peut-être, je sais pas, voilà, dans le développement de nos activités, nos prises de décision, la gestion de nos équipes, est-ce que la pleine conscience, la méditation, ou comme tu dis, la connexion à soi peuvent nous aider d'une certaine façon?
Oui, clairement, je pense que je l'expérimente actuellement au quotidien. C'est vrai qu'encore dernièrement, j'ai eu quelques semaines assez intenses, en fait, avec beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de choses que j'avais envie de mettre en place. On a souvent tendance à vouloir aller extrêmement vite, surtout quand on se lance, on dit il faut y aller, il faut avancer, il faut que ça fonctionne. On a un mélange de peur, on a un mélange d'enthousiasme qui peut des fois faire une sorte de bombe explosive à l'intérieur, puis on se sent complètement ébranlé. Ben justement, dernièrement, pendant une bonne semaine, je pense que je me suis sentie, mais j'étais complètement perdue. Je me sentais déstabilisée, je me sentais décentrée, un peu tout éparpillée. Et tout d'un coup, je me suis dit stop. En fait, ça fait déjà un moment, ça fait plusieurs jours que tu n'as pas du tout pris du temps pour toi. Tu es en train de tout faire pour les autres, tout faire pour essayer de faire avancer ton projet. Mais en fin de compte, je me suis dit, tu fais rien. Parce que tu es tellement, il y avait un état de stress tellement intense. Et du coup, dès le lendemain, j'ai recommencé. Donc, les matins, je me suis levée un petit peu plus tôt. J'ai vraiment pris des moments pour moi, pour pouvoir respirer, pour pouvoir me recentrer, bouger un peu. Parce que c'est vrai que j'aime aussi cet aspect quand même étirement du corps. Et en fait, il y a tout qui s'est calmé. C'est assez incroyable. Et j'aime beaucoup cette image. En fait, je pense que dans les périodes justement un peu de chamboulement, de penser toujours à l'océan. J'adore l'eau, donc. Mais quand on reste à la surface, quand on reste un peu vers l'extérieur, hein, où il y a tout qui bouge, où il y a ces énormes vagues qui nous arrivent dessus, qu'on sent qu'on chavire, qu'on perd complètement pied, on oublie qu'il suffit de redescendre de quelques mètres, de se retrouver en fait sous la surface de l'eau, de se recentrer, plonger à l'intérieur et qu'on retrouve tout de suite le calme. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de plongée ou même avec le tuba ou juste fermer les yeux puis descendre sous l'eau, on est dans un autre monde. Je pense que ce monde, on peut le trouver aussi à l'intérieur de nous.
Complètement, c'est une très jolie image. Et comment est-ce qu'on s'initie à la pleine conscience? Alors, j'imagine que c'est difficile de donner des vraies étapes, mais qu'est-ce que tu recommanderais pour quelqu'un qui a envie de s'y essayer?
Alors, je pense qu'il ne faut déjà pas se mettre de pression parce que c'est vrai que, comme pour toutes les activités qu'on a tendance à faire, on pense qu'il y a des... on trouve beaucoup cet esprit de compétition. Il faut que j'y arrive, je dois arriver à un but. La pleine conscience n'a pas de but, en fait. La pleine conscience, c'est juste de pouvoir s'arrêter, de pouvoir prendre un petit peu de temps pour soi. Et je pense que pour ça, pour commencer, il y a d'excellentes applications, notamment des gratuites, mais il y a tellement de choix que c'est important que les gens trouvent en fait ce qui leur correspond parce que la voix a un grand rôle. Moi, je sais que je suis très sensible aux voix des gens. Donc, il y a des gens, par exemple, j'ai utilisé des applications, notamment une qui s'appelle Petit Bambou. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait, plusieurs voix différentes. Et il y avait toujours des sortes de méditations en fait, accompagnées qui me parlaient beaucoup plus que d'autres. Et c'est vrai que petit à petit, je pense qu'on arrive à faire ce travail en fait seul. Mais au début, le fait d'être guidé par quelqu'un, soit dans un cours, dans les cours de yoga que je propose, moi j'amène beaucoup la méditation, on pratique toujours la méditation au début, ou alors justement sur YouTube, ou alors sur trouver une application sur le téléphone. Mais il y a énormément d'outils. Il faut simplement trouver ce qui nous correspond. Et surtout, ne pas baisser les bras trop vite et ne pas chercher à atteindre un but. En fait, simplement, se laisser le temps.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que, je réfléchissais même à titre personnel, tout ce qu'on fait a un but plus ou moins. Donc, c'est très difficile de lâcher prise et de se dire je fais quelque chose qui n'a aucune finalité, si on prend comme ça, en réalité, si on a une, mais sans se mettre de pression sur le résultat, tout du moins.
Oui, ça fait tellement du bien. C'est vrai que, si on peut avancer sans se mettre de pression pour une fois, surtout dans ce domaine-là, c'est important.
Oui, complètement. Justement, je rebondis là-dessus, parce que bon, tu le disais avant que quand tu es dans un rythme effréné comme ça, où tu as envie d'avancer, de finaliser ce sur quoi tu es en train de travailler, c'est un petit peu dur de se déconnecter puis de prendre un peu de recul, de prendre du temps pour soi. Alors, je me dis même à titre personnel, moi quand je le fais, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « mais tu sais qu'en réalité, tu pourrais avancer si ça et ça ». Et du coup, je me sens coupable et je n'arrive pas à complètement déconnecter. Alors toi, qu'est-ce que tu recommanderais pour pratiquer simplement au quotidien? Alors tu le disais avant, tu te lèves un peu plus tôt et tu fais des étirements, un petit peu de méditation. Est-ce que tu as des routines comme ça matinales? Est-ce que tu en as d'autres que tu pourrais conseiller?
Oui, je pense que, alors déjà, la première chose à dire, c'est qu'on trouve dans de nombreuses études, on ne peut pas être productif dans une journée complète. En principe, après une heure, on commence déjà, enfin, l'attention commence à partir, la fatigue arrive. Donc, ça devient complètement contre-productif de vouloir enchaîner le travail. Et ça, c'est une chose que quand on en a conscience, on réalise qu'autant faire une petite pause, hein, même de 20 minutes, on avance beaucoup plus vite. Le jour où j'ai réalisé ça, que j'ai pu l'expérimenter, parce que c'est vrai que moi, je passe beaucoup par l'expérience, je teste un peu. En fait, j'ai réalisé que c'était complètement vrai. Le nombre de fois où je me suis mis la pression, bah, par exemple dans mes études ou autre, où j'attendais la dernière minute, puis après, j'avais l'impression qu'il fallait que je travaille mes 15 heures par jour pour pouvoir rendre certains travaux, alors que c'était complètement impossible. Et maintenant, je prends les choses vraiment différemment quand j'ai des délais ou des choses vraiment à rendre qui peuvent me paraître insurmontables. Déjà, l'organisation, je pense que c'est essentiel de s'organiser, de planifier en avance, de répartir les choses. Et puis, dans la planification, qu'elle soit sur la semaine, sur le mois, vraiment de s'agender des moments pour soi. Parce que c'est dur. Sinon, si on se dit oui, je vais prendre un moment pour moi dans la journée, cette semaine, on ne le fait pas. Donc, il faut prendre son agenda, noter, choisir, se dire, ben voilà, là, même si c'est 5 minutes, ces 5 minutes, elles sont pour moi. Ça veut dire que je m'arrête, je suis toute seule, j'ai fermé les yeux, je me recentre. Si on peut prendre plus, c'est super. Mais déjà, juste s'octroyer des petites pauses, en commençant vraiment petit et peut-être après, quand on réalise que ça fait tellement du bien, on commence à les agrandir. Je pense que le maître mot, c'est vraiment de ne pas se mettre de pression. Parce que si on commence à se lever et qu'on décide tout de suite, on dit oui, alors tous les matins je me lève, je fais 20 minutes de yoga, je fais 10 minutes de méditation, puis après je fais ci, je fais ça. En fait, on va droit à l'échec. Donc, c'est juste aussi de se laisser un peu vivre, de commencer vraiment par des mini-pauses, puis de voir comment ça évolue au sein de notre quotidien.
Est-ce que toi, je pose juste une question complémentaire par rapport à ça, est-ce que toi, dans ta pratique, il y a des choses qui ont évolué que tu faisais au début, que tu ne fais plus, ou inversement, que tu fais davantage? Tu disais que c'est important de trouver ce qui nous convenait. Est-ce que toi, tu as trouvé ce qui te convenait dans ton quotidien?
Oui, je pense que j'ai trouvé l'écoute. Ça veut dire qu'au début, j'étais vraiment dans une pratique très structurée. C'était, en fait, c'était presque un peu comme une addiction, mais j'avais vraiment ce besoin. Alors, comme je commençais le travail assez tôt, c'était souvent quand je rentrais du travail que je prenais ce moment pour moi, que j'avais besoin en tout cas une heure, sinon je me sentais déstabilisée. Et au fil du temps, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais de nouveau dans quelque chose de beaucoup trop rigide. Je pense que la souplesse est essentielle. Et de se rappeler qu'on n'est pas du tout la même chose d'un jour à l'autre, qu'on n'est pas la même chose d'une heure à l'autre. Donc de pouvoir, en fait, quand on décide de faire une pause pour soi, première chose à se demander, c'est comment est-ce que je me sens et de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui même, en ce moment. Pas forcément hier, puis c'est pas parce que hier, justement, j'ai pas fait de sport ou comme ça qu'il faut que je fasse une pratique dynamique pour rattraper. Non, on a toujours envie de compenser, de voir les choses sur la semaine entière ou comme ça, mais je pense juste se dire, en ce moment-là, en cet instant précis, comment je me sens et de quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Et en fait, d'adapter à ce niveau-là, en fonction de notre état du jour, de notre état du moment.
Oui, puis effectivement, pas se mettre à un rythme presque militaire. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, comme tu le disais avant, on a toutes et tous des plannings très chargés qui sont prévus au millimètre près. Et puis du coup, si on ne s'est pas levé à 6 heures du matin pour faire notre yoga pendant une heure, on se dit tout de suite que c'est un échec et puis qu'on a failli à notre mission. Alors comme tu dis, il faudra un peu plus flexible, un petit peu plus bienveillant avec soi-même, effectivement.
Oui, c'est vrai que je pense qu'après, de nouveau, ça dépend tous les objectifs qu'on souhaite atteindre, mais se rappeler aussi que le travail en tant qu'entrepreneur est essentiel, mais ça n'est pas tout, ça n'est pas la vie. Donc, en fait, moi, je pense que se laisser du temps est important, ne pas vouloir toujours aller trop vite, vouloir tout de suite gagner trop, juste déjà commencer en fait par... moi, je suis un peu dans cet état d'esprit. C'est vrai que je me dis, j'aimerais pouvoir vivre de ma passion tout en gardant du temps pour moi, en fait, ce qui est essentiel à mon bien-être.
Totalement. Et justement, pour enchaîner, je voulais te poser une question, alors là, qui est purement du vécu personnel, donc c'est une question presque un peu auto-centrée, mais j'espère que ça parlera à celles et ceux qui nous écoutent. Et ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais avant par rapport au fait de s'écouter. J'ai en tête certaines routines qui, je sais, sur le fond, me font du bien, donc ça va être du yoga, de la méditation et beaucoup de visualisation, ça m'aide beaucoup. Mais j'ai l'impression que j'arrive à le mettre en place uniquement quand ça va bien. Et puis qu'en fait, que mon rythme de vie est plutôt calme et me le permet. Donc, moi, j'aime bien faire ça le matin. Donc, je vais me lever, je vais faire mes routines, je me sens bien, la journée se passe bien. Par contre, quand c'est complètement le stress, et comme je dis souvent, c'est complètement Bagdad dans ma vie, j'ai plein de projets à rendre, j'ai des délais serrés, je cours dans tous les sens, voilà, c'est juste compliqué. J'ai l'impression que je zappe complètement, alors que paradoxalement, ce sera le meilleur moment pour le faire. Et j'ai l'impression que je suis complètement déconnectée. Et du coup, je voulais te demander en fait, si tu avais des conseils pour, voilà, ben, d'une part, mieux aborder ces situations, et puis d'autre part, peut-être se réancrer un peu.
Alors, bah, je pense que de nouveau, c'est vrai que je me répète, mais comme tu disais, tu as tes routines habituelles. Et si tu ne peux pas les faire, du coup, c'est un petit peu soit tout, soit rien. Soit je fais ce dont j'ai l'habitude, puis souvent, bah, quand on a le temps, on profite, hein, on prend le temps de, comme tu dis, de faire du yoga, méditation, visualisation. Et oui, ça prend un certain temps dans la journée. Et du coup, quand on sent qu'on n'a pas le temps de faire tout ça, on préfère se dire, OK, alors je fais rien. C'est un peu comme quand on commence à manger le premier chocolat, puis on culpabilise, puis on mange la boîte en entier.
Non, c'est vrai.
Mais en fait, il faut simplement se dire que je l'ai déjà mentionné, mais juste une, deux minutes suffisent. L'équilibre se fait sur le long terme. Donc, si dans ces périodes de stress intense, on arrive déjà, par exemple, entre deux rendez-vous, le moment où on s'asseye dans la voiture pour partir au suivant ou alors qu'on attend à l'arrêt de bus, fermer les yeux. Revenir, ressentir en fait comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, de quelle manière est-ce que je respire, est-ce que j'entends mon cœur qui bat, juste ça. Et je pense que de pouvoir le faire plusieurs fois par jour dans ces moments en fait de stress vraiment intense va permettre de se sentir beaucoup, beaucoup mieux, et beaucoup moins déconnecté, beaucoup moins voilà, dans les nuages. Hein.
Ouais,
c'est un petit exercice aussi, mais je n'ai encore pas testé. Mais c'est vrai que dans ces périodes-là, en fait, on a besoin de s'ancrer aussi. On a besoin de redescendre. Hein, parce que le terme est clair, on est complètement dans la tête. Puis ce qu'il faut, c'est revenir au corps. J'ai un livre avec des exercices de pleine conscience. Puis il y en a un que je trouvais assez sympa. Il disait que dans les moments où on faut vraiment forcer à redescendre, de se mettre un tout petit caillou dans la chaussure.
Ah oui, OK.
Pour en fait que l'attention revienne tout le temps vers le bas. Parce qu'automatiquement, on va penser à nos pieds, on va le sentir. Alors, il ne faut pas que ce soit un caillou qui soit blessant non plus, hein, mais une petite gêne qui fait qu'on soit obligé de revenir au corps. Ou alors, c'est vrai que moi, je donne beaucoup aux personnes qui viennent me voir parce qu'elles me disent souvent, mais j'oublie de respirer. Je dis, bah, je sais, on oublie tous de respirer. Enfin, on respire, mais on ne respire pas pleinement. J'aime bien leur dire, après le premier rendez-vous, ben, profitez, achetez-vous un petit bracelet ou achetez-vous quelque chose que vous pouvez porter, qui sera votre signe. Dès que vous le voyez, ça sera OK. Je ferme les yeux, je prends une profonde respiration. Et déjà, juste observer ce que ça fait.
C'est une bonne idée. Écoute, je vais suivre ce conseil. Effectivement, d'avoir un objet, quelque chose que tu as sur toi, un bracelet, c'est une bonne idée. Ça permet qu'il y ait un peu ton rappel de réancrage.
Exact.
Je note. Merci. Pour poursuivre, ben, en préparant l'interview, je m'étais un petit peu renseignée justement sur la pleine conscience que je connaissais, mais on va dire sans connaître, je connaissais ce que je pratiquais, en fait, tout bêtement, mais j'ai découvert cette notion qu'on appelle l'esprit du débutant. Et j'avais bien envie que tu nous en parles un petit peu plus, parce que je trouvais super intéressant, en fait, de par le parallèle qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat, cette capacité à être curieux, ouvert d'esprit, et puis à lâcher prise sur nos croyances. Qu'est-ce qu'on devrait tous et toutes faire pour cultiver un peu cet esprit de débutant?
Alors, c'est vrai que bah, quand tu m'en as parlé, moi, je ne connaissais pas du tout cet esprit de débutant en pleine conscience. Mais finalement, après réflexion, j'imagine qu'on le retrouve un peu partout. Parce que dès qu'on fait une chose pour la première fois, on est obligé d'être dans cette chose. Sinon, bah, on n'arrive pas à la faire. C'est comme quand on apprend à conduire. C'est comme pour tout, en fait. Quand on est dans l'apprentissage, on doit être présent. On doit être, j'aime pas trop le mot de concentré, mais plutôt attentif. En fait, il faudrait pouvoir tout faire avec cette même attention du débutant, qui est compliquée. Et à nouveau, je ne pense pas qu'il faut se mettre trop de pression. Mais des fois, juste des petits gestes du quotidien, une fois par jour. Moi, j'aime bien, quand j'y pense, en me brossant les dents, par exemple. On se brosse les dents machinalement en pensant à la journée, en pensant à ce qui va arriver demain. Et de le faire de temps en temps, en sentant qu'on se brosse les dents. En brossant chacune des dents, en prenant soin, en fait, en étant pleinement dans ce qu'on fait. Et ça, on peut le faire dans tout. C'est pour ça que finalement, le yoga en soi est applicable dans le quotidien. Du moment qu'on arrive à revenir, à être vraiment dans ce qu'on fait et pas être là, mais être ailleurs en même temps. Et c'est super compliqué parce qu'on est dans une société un peu zapping. Hein, quand on voit les jeunes à présent, j'ai pu beaucoup le constater avec mes élèves, j'enseignais à des ados, ils ont ce besoin de tout le temps changer. Ils n'arrivent pas à rester dans une activité plus de tant de temps. On sent qu'il y a une tension qui monte, une agitation. Et en fait, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à pouvoir rester dans les choses, à pouvoir s'impliquer et entrer dans ce qu'on fait sans penser à autre chose, sans être dans l'avant, sans être dans l'après.
Être vraiment dans le présent et puis pas non plus se raccrocher à uniquement ses automatismes. J'ai l'impression aussi quand on est entrepreneur, on a l'habitude de faire certaines choses, donc on les exécute de manière très automatique et en fait, comme tu disais, on n'est pas pleinement dedans.
Oui, et puis peut-être qu'on a trop tendance aussi à être dans le futur parce qu'il y a ces inquiétudes. Il y a quand même toujours une certaine pression. Bah, comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ce projet? Où est-ce que je vais aller finalement? Et se dire, bah, peu importe, on n'a aucun contrôle. Enfin, alors oui, on a le contrôle sur le futur, mais on contrôle le futur par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant.
Oui, complètement.
Donc, faire en sorte de faire les choses bien aujourd'hui et après, on verra bien comment ça évolue, ce que ça donne, en se rappelant qu'on a, on ne maîtrise pas tout. Il faut arrêter de vouloir tout maîtriser, je pense. Comme tu parlais, ce lâcher prise est essentiel. Comprendre qu'on n'a pas la capacité de tout gérer, on n'est pas devin. Tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de faire bien ce qu'on est en train de faire actuellement.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est vrai, quand on est débutant sur quelque chose, que ce soit du yoga, un sport ou une activité qui va faire sens pour notre projet entrepreneurial, c'est quand on est débutant, on n'a aucune attente. En fait, on essaye et on part du principe qu'on ne va peut-être pas être excellent parce qu'en fait, on n'y connaît rien. Donc, on tâtonne et on est presque émerveillé de tâtonner, on est presque content. Il y a des fois une petite adrénaline qui va avec ça parce qu'on peut avoir l'excitation de tester quelque chose de nouveau. Et chose qu'on ne retrouve plus par la suite où on se sent peut-être, on n'est plus débutant, on est devenu un peu plus expert. Et du coup, c'est là où je pense qu'on a aussi beaucoup de croyances et on commence à avoir trop d'attentes vers le futur. Et c'est là qu'il faudrait lâcher prise en réalité. C'est juste retrouver une simplicité dans l'exécution des choses.
Oui, mais c'est exactement ça. Et puis, on devient de plus en plus exigeant. Quand on commence quelque chose, comme tu dis, on n'a pas d'attente, on n'a pas d'exigence envers nous-mêmes. Et dès qu'on commence un peu à maîtriser, on veut toujours plus. On veut toujours, on est de plus en plus exigeant, on se sent jamais assez bien, assez productif, assez légitime. Et c'est dommage. Je trouve qu'un exemple assez... Moi, j'aime bien quand, en yoga, quand on est dans la posture de la montagne, une posture debout, que souvent les gens se disent, mais c'est pas une posture, on se tient tout le temps debout et tout. Et en fait, prendre conscience de cette posture, se rappeler qu'on a mis des mois à réussir à tenir debout. Quand on colle les petits, si on regarde les enfants, ils se redressent, ils tombent, ils se redressent, ils tombent, ils n'arrêtent pas. Ils continuent, ouais. continuent jusqu'à qu'ils tiennent debout. Et en fait, ça, on oublie tout ce parcours. Et de sentir des fois, bah, ceux qui peuvent, qui écoutent, puis qui peuvent le faire, de se mettre juste debout, de fermer les yeux et de sentir quand même que le corps recherche son équilibre. Donc, on est déjà dans un... En fait, c'est pas un équilibre qui est inné. On sent qu'il y a tout le temps des petits mouvements qui nous permettent de tenir sur nos deux pieds. Donc, on est déjà dans un certain effort et ça, on l'oublie. On oublie qu'en fait, seconde après seconde, on est déjà en train de faire des choses incroyables.
C'est vrai, tu as raison. Ça revient à ce qu'on disait avant sur la bienveillance, c'est qu'il faut être un peu bienveillant avec soi-même et reconnaître qu'on a déjà fait un sacré chemin, enfin, qu'il y a déjà un bon chemin parcouru.
Ah oui. Et qu'on ne peut pas être parfait, qu'on est tous parfaitement imparfaits et que heureusement.
Absolument. Alors pour conclure, merci Jennifer, je voulais te demander voilà, quels étaient tes projets que tu pouvais déjà partager avec Respire Yoga.
Alors, donc moi, ça fait pas très très longtemps que j'ai vraiment quitté mon travail d'enseignante pour me lancer dans mon projet à 100%. Et c'est vrai que là, ce que je souhaite, c'est continuer à développer un peu mes cours, mais surtout développer mes accompagnements thérapeutiques. Je me rends compte que j'ai énormément de plaisir à accompagner les gens, à les voir évoluer, à les voir se transformer. J'ai la chance d'avoir déjà des personnes qui me font confiance, que je suis depuis plusieurs mois. Et je trouve que c'est magique, en fait, de voir ce parcours. Je trouve que c'est incroyable, en fait, comme chacun est différent, puis comme on peut toujours amener de nouvelles choses. Et puis, en voyant les personnes grandir, je sens que ça me fait énormément grandir moi-même. Et j'ai aussi ce besoin, je pense qu'on n'a jamais, enfin, durant toute la vie, je pense qu'on doit évoluer, qu'on doit continuer à se transformer. Et ça fait partie de ma transformation. Et là, comme je disais avant, bah justement, au début, j'étais partie sur un accompagnement vraiment yoga-thérapie parce que j'ai fait une formation de yoga-thérapeute. Donc, de nouveau, je me suis un petit peu laissée aller dans cette société. J'ai un papier, donc il faut que je fasse ça. Je suis obligée d'utiliser ce mot. Et de plus en plus, depuis quelques mois, je ne me sentais pas confortable avec ça. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Et comme j'ai souvent eu l'impression dans les formations que j'ai faites durant ma vie, alors on obtient toujours de grands outils. Je trouve que c'est toujours des moments magiques. Mais finalement, en se formant, on perd aussi un peu sa propre identité. Moi, j'ai souvent eu cette sensation qu'on essaye de nous mettre dans un moule. Et c'est la première fois que je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie d'être dans ce moule. J'ai envie de créer mon propre moule. Et voilà, c'est mon projet pour 2021. C'est vraiment, en fait, de pouvoir d'oser déjà parler de respire-thérapie et de pouvoir créer mon propre accompagnement, en fait, qui consistera vraiment à proposer tous les outils que j'ai pu moi-même expérimenter. Parce que je suis convaincue que l'expérience est le meilleur, en fait, des apprentissages.
Absolument. Bah, écoute, merci beaucoup. On se réjouit de suivre tout ça en 2021.
On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.